Bonsoir Henri.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir et merci beaucoup d'avoir appelé le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 parce que vous avez écouté Stéphanie qui était avec nous en début d'émission. Stéphanie, donc pour peut-être ceux qui n'ont pas entendu son témoignage, qui nous disait que elle avait envie enfin de vivre sa vie de femme, d'être elle-même, alors que elle a été mariée pendant des années, a eu des enfants d'ailleurs dont elle n'a pas parlé, mais pour dire les choses, je voudrais pas la blesser, mais en fait, elle a choisi ce prénom Stéphanie, mais pendant longtemps, elle était, pour reprendre ses termes, dans un déguisement d'homme. Je reprends son expression. Et donc, elle disait que elle envisageait de se confier à deux collègues au travail dont elle se sentait proche, mais au-delà de se confier, c'est peut-être se rendre sur son lieu de travail en Stéphanie, c'est-à-dire en vêtements de femme et autres. Et alors, vous aviez envie de peut-être la conseiller sur ce sujet, au vu de votre formation, je crois.
C'est ce que je souhaitais faire, en effet. C'est l'éclairage d'un directeur des ressources humaines d'une grosse entreprise.
Bah alors, un éclairage important, merci.
Je conseillerais de temporiser et de suivre vos conseils. C'est-à-dire que il faut effectivement que... Alors, on sait que il y a la loi, les discriminations, etc., etc.
Oui.
Ça, c'est la première couche, je dirais. Mais analysons le comportement et les engagements de l'entreprise vis-à-vis de cette situation, de la cause LGBTQ+. Mm-hmm. Sincèrement, si l'entreprise ne s'est pas positionnée d'une manière extrêmement ferme par rapport à comment réagir dans ce type de situation, il ne faut surtout pas s'ouvrir de cette situation à ses collègues. Vous l'avez expliqué en long, en large, en travers, revenons pas là-dessus, vous aviez complètement raison. On ne peut jamais savoir quelle sera la réaction d'une personne avec qui on travaille, avec qui on a excellente relation, et qui pour autant peut complètement réagir d'une manière qu'on n'attendait pas. De fait, si l'entreprise ne s'est pas positionnée et n'a pas écrit...
J'allais vous demander, oui, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, se positionner ? C'est individuel ? C'est à chaque entreprise ? Parce que comme vous rappelez, effectivement, le cadre de la loi, les discriminations qui sont sanctionnées, mais ça veut dire qu'individuellement, chaque entreprise doit se positionner ?
Oui. C'est pour être vraiment bienveillant vis-à-vis de ce type de situation, l'entreprise doit se positionner et ça passe par la prise d'engagement, par la rédaction d'accords avec les partenaires sociaux, la direction, au besoin en s'appuyant sur des associations qui existent, je n'en citerai pas, mais il en existe plusieurs qui justement aident les entreprises à prendre des engagements vis-à-vis de cette cause.
Oui, de la cause LGBT.
Oui, LGBTQ+, naturellement. Après, il suffit de faire une recherche. Je veux pas faire de publicité pour l'une ou de ces associations.
Des associations, on peut toujours, parce qu'elles ont une utilité. Hein.
Oui, bon, on pourrait parler de l'autre cercle, par exemple.
L'autre cercle, qui conseille les entreprises, alors.
Absolument, qui est capable, de d'accompagner l'entreprise vis-à-vis de son positionnement dans cette situation, où il y a un engagement très fort au plus haut niveau de l'entreprise, avec les partenaires sociaux, s'ils existent, etc. Et donc, la mise en place d'une charte, d'une d'engagement extrêmement fort. Pour faire simple, si l'entreprise n'a pas pris ce type de disposition, le coming out serait très dangereux. Très dangereux.
Oui.
Voilà, donc c'est mon conseil. D'abord, analysons
La
position de l'entreprise.
Oui.
Si l'entreprise n'a pas pris de disposition, danger, attention, il faut suivre vos conseils, voir un psy, y réfléchir.
Oui, après, comment peut se faire, c'est-à-dire que moi je ne la dissuadais pas du tout, hein, mais comment faire par étapes et dans le cadre du travail, vous dites c'est quand même toujours à haut risque. Mais alors quand vous dites Anna, parce que en fait, donc Stéphanie, comment elle pourrait savoir au fond quelle est la position de son entreprise ?
Très simplement, c'est-à-dire dans l'entreprise, il existe des accords, un code de déontologie. Je parle d'entreprise d'une taille qui,
oui, déjà une assez oui, importante.
Oui, c'est sûr que si on est dans une PME de 10 personnes, oui. Ça peut exister, hein, pour autant. Hein, dans des
oui, si quelqu'un est sensibilisé, après
absolument,
tout.
Absolument, absolument. Mais si ça n'existe pas, si l'entreprise va publier ses engagements, ses accords, son code de déontologie, son règlement intérieur, etc., etc. Si elle n'a à aucun moment, elle ne fait référence à ce type de situation, je dis danger, voilà.
Bah, c'est clair, c'est très clair, ouais. Au moins, oui, je vous remercie vraiment. J'espère que Stéphanie est à l'écoute et ça lui permettra, c'est un excellent conseil, de se renseigner et de savoir un peu ce qu'il en est. Parce qu'elle nous parlait de ce lien qu'elle avait noué de confiance avec ses deux collègues, mais ses deux collègues, enfin, ça reste des collègues aussi qui sont dans une entreprise. Donc,
ce ne sont effectivement que des liens individuels.
Oui.
Qui existent compte tenu de la situation que ses collègues connaissent maintenant, qui potentiellement va changer demain, quelle sera leur attitude.
Oui.
Si l'entreprise n'encadre pas, n'accompagne pas, n'est pas capable de, au pire, sanctionner, hein, parfois.
Oui,
c'est,
bah oui. Si, oui. Oui, il y a un cadre, il y a un cadre qui est défini.
Voilà.
Donc,
si cadre il y a, tout va bien. Si cadre il n'y a pas, grand danger. Voilà, Stéphanie a 54 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle doit encore travailler 10 ans, hein, selon...
56, oui, mais oui, vous avez raison, oui, la retraite n'est pas proche. Hein.
Voilà, donc perdre un emploi à cet âge,
oui.
Dans cette situation, c'est la descente aux enfers. D'accord.
Je suis d'accord avec vous. Et comment, si je peux me permettre une question, Henri, vous avez été approché par des associations, qu'est-ce qui fait que justement un directeur des ressources humaines d'une grosse entreprise est sensibilisé comme ça, cette cause-là, et propose de développer une charte, comme vous dites. Est-ce que les associations dont vous parlez démarchent les entreprises, ou est-ce que c'est après chacun, au vu de peut-être sa sensibilité, comment ça se passe?
C'est une très bonne question. Effectivement, les associations ne démarchent pas les entreprises.
Oui, c'est
parce que il y a une notion de, voilà, on pourrait qualifier entre guillemets de greenwashing.
Ah oui.
Donc l'association va s'assurer de la véritable implication de l'entreprise.
D'accord.
Et c'est l'entreprise qui doit faire la démarche.
Je comprends. Oui, si elle veut, ensuite, oui, ça paraît plus, pas. Évidemment, plus logique,
oui,
plus simple.
Parce que sinon, c'est de l'affichage.
Oui, oui, bien sûr.
Et après, il y a une collaboration entre l'association et l'entreprise,
oui,
pour justement avancer sur les chartes, le code de déontologie, enfin tout ce qui va permettre de démontrer à chacun des collaborateurs de l'entreprise la bienveillance vis-à-vis de cette situation, de ces situations finalement, je dirais.
Mmh, bien sûr, oui, parce qu'elles sont multiples, vous avez raison.
Très, très multiples,
oui.
En fait.
Oui.
Et par ailleurs, il y a aussi certaines associations, telles que l'autre cercle, proposent des programmes de formation pour les collaborateurs.
Mmh.
Parce qu'il faut être formé pour oui, prendre conscience.
Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, on le voit encore avec cette actualité tragique où on reparle de harcèlement, cette jeune fille qui a mis fin à ses jours.
C'est
une épouvante, il n'y a pas d'autre mot.
C'est du même ordre finalement.
Oui, oui.
Quand on y réfléchit, c'est du même ordre.
Mais le harcèlement, ça porte toujours, oui, enfin c'est ça, il y a ces phénomènes sur quelque chose d'une différence, phénomènes de meute, les réseaux sociaux, il y a quelque chose, oui, de...
Et effectivement, le phénomène de meute qui s'accélère avec les réseaux sociaux.
Évidemment.
Aujourd'hui, voilà, moi j'ai maintenant, j'ai beaucoup plus de 50 ans, font des choses qu'on n'a pas connues jadis, mais aujourd'hui, ça peut prendre des proportions épouvantables.
Oui, la haine, on est dans la haine à l'état brut. Quand on voit que la camarade de cette toute jeune fille, parce que 13 ans, jeune fille, enfin ça reste une enfant pour moi, c'est une enfant et que sa camarade était également harcelée, que dans sa lettre d'ailleurs elle demande à ses parents de prendre soin de sa copine, et que le harcèlement continue. Enfin, le harcèlement continue avec des propos que j'ose même pas dire, tellement ils sont ignobles, en fait.
Je les ai lus, en effet. Comment est-ce possible ?
Comment est-ce possible, oui. Moi, je me dis, là, c'est criminel, en fait. On voit bien, d'ailleurs, il y a des mots qui tuent. On parle beaucoup, évidemment, de la violence, des violences qui sont inacceptables, mais on voit à quel point le harcèlement, à travers des mots, on peut tuer. Il y a des mots qui tuent.
Je l'ai vécu avec mon fils.
Ah bon ?
Voilà.
Qui a été harcelé.
Qui a été harcelé au collège.
Ah oui.
Alors, évidemment, il en a des séquelles naturellement aujourd'hui.
Oui. Il a quel âge aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il a 20 ans. Voilà,
oui, il est tout jeune encore.
Toujours difficile.
Il a un manque de confiance en lui ?
Oui. Je ne vais pas détailler, mais c'est de cet ordre. Et j'avoue que à l'époque j'ai dû déployer une énergie considérable. Et je dirais que j'ai pu le faire, c'est-à-dire que j'ai été capable de le faire, de mobiliser la police.
Oui.
D'ailleurs, j'ai eu là pour le coup un appui de la police extrêmement fort. C'est-à-dire que face à l'administration. L'éducation nationale, c'est-à-dire proviseur, dispenseur, je ne sais plus, CPE, je ne sais plus.
Proviseur, CPE, oui. Enfin, la maman de cette jeune fille dit qu'elle a été complètement lâchée.
Oui, voilà. Et je l'ai été aussi. Sauf que je leur ai apporté une belle enquête de police dans leur collège.
Ah voilà. Oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'il y a eu derrière 5 condamnations quand même, 4 exclusions, 5 condamnations.
Ah oui, en effet.
Au pénal. Voilà.
Au pénal.
Oui, absolument. Voilà. Et parce que je n'ai rien lâché.
Mais oui.
Mais encore, faut-il être capable de le faire. J'entends capable, je ne parle pas de capacité, mais d'avoir l'énergie.
C'est ça. Mais parce que en fait, je crois que c'est. Tout parent, enfin, il y a quelque chose d'épouvantable, quoi, qu'on puisse s'en prendre comme ça à son enfant. Et c'est vrai que du coup, on peut soi-même être complètement anéanti, en fait.
Naturellement, évidemment, vous retrouvez face à une machine. Oui. Si vous n'êtes pas capable de casser la machine, c'est-à-dire, et là, j'ai eu de la grande chance, et je le répète encore, d'avoir eu un soutien total. De
la police.
Des services de police qui sont descendus le lendemain avec les moyens qu'il fallait. Et derrière d'avoir eu des condamnations.
Et vous dites au pénal.
Et là, ça parle, c'est du pénal. Ça veut dire que derrière, il y a des. Naturellement, ce sont des jeunes, ce sont des travaux d'intérêt généraux, du contrôle judiciaire, des sanctions financières aussi. Et ça, je m'en moquais, c'est pas la question. Mais quelle énergie pour obtenir ça. C'est affreux parce que on se dit que quelqu'un qui est démuni, qui va pas pouvoir faire ce que j'ai par chance pu faire, eh bien on se retrouve avec un enfant qui est mort.
Et donc combien d'enfants meurent comme ça, se donnent la mort parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est affreux. Je suis d'accord. Vous avez, comme vous dites, trouvé la force, l'énergie, et pour votre fils, qu'est-ce que ça a dû être réconfortant de savoir que son père était à ses côtés.
Ça l'a été. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça reste difficile pour lui parce que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux dont il se souvient naturellement.
Il est jeune encore, donc il peut y avoir à 20 ans. Ça peut se retravailler. C'est douloureux parce que.
J'espère qu'il saura s'en remettre, mais pour autant, c'est une blessure épouvantable. et ça ne devrait pas arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir une éducation nationale qui protège les enfants.
Oui.
Et elle ne protège pas. Elle ne protège absolument pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Elle veut simplement éviter les vagues. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement est jugé, ce qu'on veut, j'en sais rien, je connais pas la fonction publique, à l'image qu'il renvoie de son établissement. Donc, naturellement, quand ce type de situation se produit, eh bien, il essaye d'étouffer. Dans 99% des cas, il va essayer d'étouffer. Voilà. Et l'affaire de l'INSEE, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai vécu. Je pense que mon fils aurait pu se suicider. Je sais qu'il aurait pu se suicider. Il ne l'a pas fait. Parce que j'ai eu la capacité de casser le système. Et je l'ai cassé pour mon gamin. D'accord? Mais je ne sais pas ce qui peut se produire derrière, parce que ce qui s'est produit une fois se reproduira. C'est mathématique.
Mais on est dans la barbarie, en fait. Hein. On est dans quelque chose. Oui. Et c'est, comme vous le dites, les séquelles, elles demeurent, elles sont profondes. Il faut du temps pour cicatriser. Parce que ce qui est terrible, c'est que dans ces cas-là, il y a l'enfant qui est harcelé ou l'adolescent, enfin, à honte, enfin, et dans la honte de se croire au fond responsable. Et je me souviens d'un jeune garçon qui témoignait comme ça, où les autres lui disaient qu'il était nul, minable, et qu'il valait pas la peine de vivre et autres. Et en fait, il se taise parce qu'en fait, il a fini par dire, je voulais pas que mes parents aient honte de moi, d'avoir mis au monde un minable. Mais quand cette intériorisation, à un âge où on est en plus si fragile. C'est ça, en
exactement
plus.
Ça.
C'est un âge où on est si fragile.
Complètement la situation, c'est-à-dire que l'enfant va cacher.
Bah, bien sûr.
Et donc, le rôle des parents est de détecter les signaux faibles. Et oui. Je pense que les parents de l'INSEE les ont vus.
Mais oui.
Mais malheureusement, ils n'ont pas pu.
Mais
ils
non.
Ils n'ont pas pu. Mais ils non, se sont ils heurtés ont... au mammouth, hein, comme disait je ne sais plus quel ministre.
Voilà. Allègre, Claude Allègre.
Voilà, Claude Allègre, en effet. Ouais. Voilà. Donc, bon, voilà.
Oui, on a l'impression, le mammouth, là, ça prend son nom, hein, je trouve. Parce que c'est vrai que quand j'entendais cette maman en conférence de presse, c'est épouvantable. Enfin, c'est un échec, c'est sur toute la ligne, et c'est une tragédie, parce que ça aboutit à la mort d'une enfant de 13 ans.
Voilà, pour moi, enfin, le ministre est coupable là-dessus. Le ministre et toute son administration, il faut tout
alors,
revoir.
Ça, le ministre, il arrive, bon, lui, voilà, il prend, comme il vous dites, c'est un mammouth. C'est un mammouth.
Il y a 3 ans, le ministre, hein, donc à un moment.
Ah, déjà voyez, oui, ben voyez, je vois pas. Il est là depuis Papendiaï. Il est...
je pense, oui, 2-3 ans.
Oui, et mais bon, il hérite de tout voyez, un. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus récent, que c'est non et c'est plus récent hein, sa nomination.
Bon, peut-être que je me trompe,
oui, puisque justement, mais... oui, c'est plus récent. Mais oui, ça fait un an en fait.
On prend des responsabilités, on prend la mesure des responsabilités qu'on prend et on agit. Si on n'agit pas, bon après, bon, moi je fais pas de politique.
Oui, c'est ça. Je comprends. Vous réagissez aussi en tant que père et moi je comprends votre colère. Oui, qui a vécu des choses terribles. Mais en tant que directeur des ressources humaines, je me dis que vous portez bien votre titre, vous. Parce qu'il y a de l'humain en vous et il y a de l'humanité, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut bien dire ce qui est. Hein. Parfois, il y a eu des...
Bon. Oui, ça peut arriver.
Mais on sent que vous êtes sensible à l'humain.
Ouais. L'humain est la première ressource d'une entreprise. Je veux dire, et quand je dis ressource, je ne parle pas de capacité à créer de la valeur, etc. C'est qu'on travaille l'humain sans... C'est-à-dire, on est proche des collaborateurs, on fait tout ce qu'il faut pour...
Oui.
Et surtout, on ne recherche pas un objectif de rentabilité parce que c'est la politique humaine qu'on va mener qui va créer les conditions de la performance d'une entreprise, en fait, tout simplement. Voilà. Et il ne faut travailler que l'humain. Il ne faut pas travailler des stats, du reporting, des machins. Ouais. On s'en fout.
Bah, puisse beaucoup vous entendre, parce que je suis bien d'accord avec vous, tout par-delà. C'est si effectivement les salariés se sentent bien et considérés et bien traités humainement, ça aura des répercussions sur toute la boîte, sur la productivité, sur autre. Et l'inverse, c'est vrai. Mais malheureusement, on a souvent pris les choses à l'envers. Bah, c'était non seulement un plaisir de vous entendre, mais c'était utile aussi, Henri. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler pour donner toutes ces informations. Vous voyez, il y a plein de choses que j'ai apprises et qui, j'espère, aussi seront utiles à Stéphanie et à bien d'autres personnes. Donc, merci beaucoup.
J'espère, ça me tenait à cœur. Merci beaucoup.
Vous avez bien fait. Bonne soirée, Henri.
Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.